Oui, Seigneur, merci pour les courants de ton amour, de ta grâce qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous soulèvent, qui nous relèvent, qui nous guérissent. Merci pour parce que tu es là ce matin et nous le savons et aussi nous le sentons. Et ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et nous te demandons que tu illumines encore les yeux de nos cœurs, que tu touches notre intelligence spirituelle, afin que nous puissions nous asseoir à table avec toi ce matin, manger avec toi, boire avec toi, être nourris de ta vie, comprendre tes pensées, qu'elles remplacent les nôtres, qu'elles soient intégrées dans nos vies, pour que nous puissions vivre de ta vie, vivre avec toi, Seigneur. C'est notre attente, c'est notre prière. C'est ce que nous te demandons ce matin pour ce moment ensemble, Seigneur Dieu. Amen. Pour ceux qui viennent le jeudi soir, on était chez Coralie et Thomas ce jeudi. On a survolé comme les aigles. D'ailleurs, je précise, Pascal m'a rappelé que les parapentes aussi montent avec les courants ascendants. Hein. C'est moins poétique que les aigles, mais c'est le même système, hein, même principe. C'est inspiré de l'aigle, d'ailleurs, tout à fait. On a survolé Lévitique, le livre de Lévitique. Et personnellement, ça m'a fait du bien. C'est bien, hein, au moins celui qui parle, ça lui fait du bien. C'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que c'est un livre que j'avais un peu laissé de côté. Et puis, ça m'a rappelé beaucoup de belles choses. Et je voudrais juste commencer avec ce verset, Lévitique 19:1. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est un ordre, hein, c'est un impératif. Soyez saints, car je suis saint. Et on a vu que ben, ce livre du Lévitique, c'est le livre qui explique comment rendre un culte à Dieu. Partant du principe que pour Dieu, il n'a pas à l'expliquer, c'est une évidence. Le but suprême de la vie de chaque être humain, c'est de lui rendre un culte. Et comme on l'a re-expliqué jeudi, rendre un culte, c'est pas venir s'asseoir le dimanche matin ici à 10h pour chanter quelques chants et écouter quelqu'un qui parle. Hein? Rendre un culte à Dieu, c'est le rencontrer dans le temple que nous sommes nous aujourd'hui par le Saint-Esprit, pour être en communion avec lui par le Saint-Esprit. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Mais à cette époque-là, pour ces braves gens qui marchaient dans le désert, ces 3 millions de personnes qui s'étaient sauvées avec l'aide de Dieu depuis l'Égypte, rendre un culte, c'était une entreprise compliquée. Il y avait, tout avait été expliqué, comment il fallait construire le tabernacle, tout ce bazar-là, c'était pas simple. Avec les couleurs, avec les pots, avec les couvertures, avec les animaux, avec les... Il fallait des ingénieurs de haut niveau. Je crois d'ailleurs que les assistants de Moïse avaient fait le PFL et quelques trucs comme ça. Hein. Sinon, c'était impossible à faire tellement que c'était compliqué, quoi. Et puis après, ils avaient traversé le lac Léman. Et puis, non. C'était ouvert. Pour arriver. Non. Sérieusement, c'était compliqué, mais en même temps, toute la vie de ce peuple était orientée vers ça. Rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il fallait un endroit spécial. Deuxièmement, il y avait un gros obstacle pour rencontrer un Dieu saint, alors qu'on était pécheurs, là il y avait danger. Et ce peuple le savait bien parce qu'ils avaient vu suffisamment d'histoires avec des gens, un peu de poussière. Ils s'étaient approchés inconsidérément d'un Dieu saint. Ils avaient encore en tête le pharaon et son armée engloutie dans la mer. Ils connaissaient ces choses-là. Donc Dieu attend qu'on lui rende un culte, donc on s'approche de lui, mais on peut pas s'approcher de lui parce qu'il est saint. Il y avait une équation compliquée là, avec plein d'éléments. Hein. Alors Dieu parle à Moïse, qui parle au peuple, et il leur explique. Voilà comment vous allez faire. Et puis, bien sûr, on va pas reprendre tout ça ce matin, hein, mais les animaux, on avait la main dessus, on les égorgeait, du sang sur les cornes, sur le truc, sur le bazar, sur le bidule, et de l'huile, et des habits, et du lin. Et après tout ça, enfin, ils étaient purifiés. Ils s'approchaient de Dieu, ils priaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils confessaient leurs péchés. Et puis, ils ressortaient de cet endroit. Et là, ça devenait compliqué. Ils avaient été purifiés par tous ces rites. mais il fallait essayer de rester pur. Imaginez la pression sous laquelle ces pauvres gens vivaient. Parce que si vous lisez le Lévitique, vous allez voir que les façons de devenir impurs sont multiples et variées. Mais il y en a, hein. On prend un verre de thé, il y a une mouche dedans, paf, on est impur. On croise une femme, on lui dit bonjour. Bon, ça se faisait pas, on touchait pas les femmes à l'époque pour leur dire bonjour. Mais fait, accidentellement, en faisant les courses, je heurte l'épaule d'une femme. C'est la semaine où elle a ses règles. Ah, je suis impur. On croisait quelqu'un qui venait d'aller à la chasse, qui avait croisé un sanglier. Paf, on était impur. Un lézard dans la maison, je marche dessus. Paf, je suis impur. C'est compliqué. Hein, les seules personnes qu'on pouvait rencontrer sans danger, d'ailleurs, Lévitique 13, c'était les chauves. C'est un chauve, il est pur. Hein, c'est marqué dans la Bible. Mais il y avait beaucoup d'autres choses. Il n'y avait pas que des chauves. Les chauves-souris étaient impurs d'ailleurs aussi. Hein, ouais, donc si le chauve-souris, ça va plus. Enfin, non, sérieusement, c'était terrible. Et pensez à ces gens qui grandissaient à partir de quelques années, dès qu'ils étaient assez grands pour comprendre, le but de leur vie, dans leur culture, c'était essayer de rester pur. Effrayant. Hein. Et puis, parce que l'homme est ce qu'il est, le but de Dieu, c'était être pur pour rencontrer Dieu. C'était juste un obstacle à enlever l'impureté pour rencontrer Dieu. Mais bien sûr, les hommes étant ce qu'ils sont, le but devient être pur pour être pur. Hein, et c'est ce qui était arrivé à un niveau impressionnant à l'époque de Jésus. Ces gens qui faisaient rien de mal, ils faisaient qu'appliquer ce que le Lévitique et les autres trucs disaient. Simplement, ils avaient oublié que le but de la pureté, d'être purifié, de pas faire ci, de pas faire ça, de pas toucher ci, de pas toucher ça, de pas faire ci, etc. C'était quoi? C'est pas de pouvoir dire « j'y suis arrivé hein ». On peut imaginer qu'il y avait, des records comme ça. Il y avait le top 10 de ceux qui avaient tenu. J'ai tenu 11h52 en restant pur. Wow, et puis le lendemain, il y en a un qui arrivait à 11h53. Et puis là, il avait croisé un sanglier. Il y avait un poil qui avait sauté sur lui et paf, il était reparti à zéro sur le compteur. Mais ils avaient complètement laissé de côté le fait que le but, c'était de rencontrer Dieu, s'approcher de lui, lui offrir un culte. Ils étaient dans la compétition pour essayer de rester purs. Mais c'est terrible, parce que c'était un combat perdu d'avance. Imaginez n'importe quel sport où vous savez que de toute façon vous allez perdre. C'est pas motivant de jouer, hein. Parce que de toute façon ça va vous rattraper. Hier j'avais une belle image de ça. Ma fille a voulu aller dans un parc de jeux là et puis elle était sur un trampoline. Tu sais, ces machines où on saute là. Et pour compliquer un peu, elle a décidé de mettre des. Il y avait des petites balles comme ça en plastique, hein, de couleur. On en a mis une dizaine sur le trampoline. Puis comme elle était seule à jouer, j'ai essayé d'inventer des jeux pour que ça dure. Et puis, je lui ai dit, voilà, le but, c'est que toi, tu sautes toujours, mais il ne faut pas que les balles te touchent. Et c'est terrible, parce que où qu'elle marche sur le trampoline, c'est plus bas, les balles viennent tout le temps là, quoi. Donc, elle ne pouvait pas s'arrêter, même si elle s'arrêtait pour se reposer sur un pied, les balles arrivaient, et bien sûr, elle perdait toujours. Alors, c'était amusant, parce que ça la faisait rire. Mais ça me faisait penser à l'envoyant sauter pour éviter ses balles, et plus elle sautait haut, plus les balles arrivaient vite. Hein, plus elle essayait de les enjamber, plus il y en avait une autre qui arrivait par derrière, par devant. C'était très amusant comme jeu, mais je me disais, ça ressemble un peu aux efforts humains pour rester pur, quoi. C'est perdu d'avance. Parce qu'à un moment, épuisé, on va s'arrêter et là, toutes les balles, elles arrivent dessus. De toute façon, on ne peut pas. Hein. Et pensez que c'est dans ce contexte-là, dans cette culture-là, que Jésus vient. Et si vous en avez l'occasion, lisez les évangiles ou au moins un des évangiles en pensant à ça. Peut-être celui de Luc, c'est le plus complet. Hein. Et vous allez voir, on dirait qu'il y a, enfin on dirait pas, il y a une intention incroyable. Si vous avez encore un peu en tête, toute la liste des choses qui rendaient impurs dans le Lévitique. Et Jésus les prend les unes derrière les autres. Je ne parle pas du péché ici. Hein. Jésus n'a jamais péché. Mais tous les trucs qui rendaient impurs. Une femme atteinte d'une perte de sang, et il la touche. Un lépreux, et il le touche. Un gars qui ne fait pas partie du peuple, et il le touche. Manger avec des prostituées, et il va manger avec eux. Les laisser toucher les pieds, et il les fait. Les uns derrière les autres, marcher le jour du sabbat, manger ce jour-là, manger sans se faire les ablutions sur les mains. On dirait qu'il avait comme un parcours à faire. Hein. Il avait le Lévitique en tête, qu'il connaissait par cœur. Qu'est-ce que je peux trouver qui rend impur et que je vais faire, hein. C'était pas du tout dans l'esprit de s'amuser. C'était pas pour choquer. Mais c'était parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une chose extraordinaire déjà qu'on réalise pas. Mais c'était surtout parce que Jésus, en venant sur terre, a inventé quelque chose qui n'existait pas. C'est la pureté par contamination. Avant, c'était dans une démarche négative. Hein. Je vais faire tout le bazar avec les animaux, machin, truc, le sang, l'huile, ça prend la journée, ça coûte une fortune parce qu'il faut à chaque fois une colombe et un bélier, et un bouc et un machin et un truc. Je sors de là et le compte à rebours commence. Tuc, 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 jusqu'à quand je vais rester pur. Hein. Jésus vient, l'agneau de Dieu, la victime parfaite. Et lui, c'est le contraire. Il est la sainteté émane de lui, et quand il rentre en contact avec ce qui est impur, non seulement lui n'est pas souillé, mais ce qui touche peut éventuellement être purifié. Pas toujours. Pas toujours parce qu'il fallait que celui qui rencontre veuille bien recevoir. C'était pas magique, c'était pas systématique. Hein. Jésus se promenait pas dans le marché en touchant les gens comme ça, et puis tout ce qui touchait, ils étaient sauvés, ils étaient saints. Non, ça aurait pu, si c'est ce que ces gens-là avaient désiré. Hein. Mais pour tous ceux qui voulaient. Et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ces gens qui avaient grandi sous ce terrorisme religieux, pas parce que Dieu l'avait voulu comme ça, mais qui s'était imposé à eux-mêmes, hein, parce qu'ils n'avaient pas compris comment ce que Dieu voulait. D'un coup, il y a ce personnage qui est là, ils ne savent pas l'expliquer, mais ils savent que c'est différent. Et je relisais ce matin l'histoire de cette femme, donc, atteinte d'une perte de sang depuis des années. Donc, vous imaginez pour elle la vie dans ce peuple-là. Hein, c'était pas une semaine, toutes les quelques semaines. Elle était impure du matin au soir depuis des années. Alors qu'elle y était, bien sûr, absolument pour rien. Elle avait une maladie, hein, qui la faisait souffrir, qui l'épuisait. Elle devait être anémique, manquer de fer, tous ces bazars-là. Mais en plus, déjà que les femmes étaient moyennement bien considérées, elle, c'était comme une lépreuse. Et comment elle pouvait avoir deviné cette chose-là, qu'elle pouvait toucher Jésus et que ça allait aller mieux? C'est bizarre comme idée, entre guillemets. Pour nous, oui, on lit l'histoire, on la connaît. Hein. Mais imaginez, vous avez grandi dans une culture où vous savez, en tant que femme, que déjà, vous êtes plutôt moins pure que les hommes. Hein. C'est pas vrai, mais c'est comme ça que ça passait. En plus, s'il y a perte de sang, là, c'est vraiment à l'écart, on ne touche pas. Et puis, de toute façon, une femme ne peut pas toucher un homme, ça ne se fait pas non plus. Et elle a cette idée que si je peux toucher le bord de son vêtement, même pas lui, je serai guéri. D'où elle a sorti une idée pareille? Je ne sais pas, mais elle le savait. Elle pense ça. Elle vient, elle le fait, et elle est guérie. Et Jésus n'est pas impur. Jésus n'a pas eu à aller se taper tout le rituel, aller voir les machins, les huiles, les trucs, la bestiole, le truc. Non. Une force est sortie de moi. Il a senti que son immunité en pureté avait été utilisée. Hein. Quelqu'un a tiré. Vous savez, comme dans ces petits abreuvoirs qu'on met pour faire boire les animaux, qui sont, j'en avais pour les poules chez mon père. Hein. Au fur et à mesure qu'on boit, il y a un niveau dedans, et puis dès que ça baisse, ça se remplit toujours. Ça se remplit toujours. Jésus était comme ça, il était en communion avec son Père, il recevait sa vie, il était lui-même la pureté, et les gens qui étaient impurs venaient, et s'ils le touchaient avec cette foi toute simple que je peux être guéri, je peux être transformé, je peux entrer en communion avec Dieu, juste par la foi, c'était pas juste le fait de le toucher physiquement, hein. On voit tous ces autres exemples où les gens disent, dis un mot et je serai guéri et je serai purifié, hein. Et c'est extraordinaire parce que tout a changé. C'est plus il faut faire un travail considérable pour être pur et maintenant se battre pour essayer de rester pur, mais je sais que j'ai perdu d'avance. Rester pur dans l'ancienne alliance, c'était jouer à la roulette russe avec 7 balles dans le pistolet, quoi. De toute façon, c'est perdu, quoi. On ne peut pas gagner. On n'y arrivera pas. Et puis Christ vient, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il vient prendre notre place, prendre toutes ces horreurs sur lui une fois pour toutes. Hein. Le péché, la somme du péché. de ces impuretés et pas juste les symboles comme dans l'Ancien Testament. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut manger du cochon, il n'y a pas de problème, et on peut mettre la main sur une épaule, l'épaule d'une femme en toute pureté, même on ne demande pas à quelle période elle est, ça va, on ne sera pas contaminé. Mais dans les choses graves, le péché, il l'a pris sur lui, et il nous donne sa justice, il nous donne sa sainteté. Mais attention, le but n'a pas changé. Quel est le but ? Que nous puissions rendre un culte à Dieu. Et c'est là où nous avons besoin de comprendre ce que signifie la grâce, parce que nous en avons compris souvent que la moitié qui nous intéresse. Et du coup, c'est plus la vérité. Lorsque Jésus a guéri ces 10 personnes, c'était 10 lépreux, je pense. C'était 10 lépreux ou 10 aveugles ? Ma mémoire fait défaut, tant pis. Je pense que c'était 10 lépreux. Ces 10 lépreux qui viennent s'approcher de Jésus, ils sont tous malades. Et puis Jésus les guérit, les 10. Et puis là-dedans, il y avait 9 juifs et un samaritain. Et puis il y en a un seul qui revient remercier Jésus. Pour les autres, le truc, c'est on veut être guéri pour être guéri. Et c'est souvent mon attitude. Je veux être pardonné, pourquoi ? Parce que la culpabilité, c'est fatigant. J'aime pas vivre en me sentant coupable. Alors, la grâce est là, c'est vrai. Christ est mort pour moi, c'est super. Je m'approche de Dieu et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Il me pardonne. Et je m'en vais tout content, je suis pardonné. Ah, je vais pouvoir aller jouer à ma Game Boy sans me sentir coupable. Dieu ne dit rien. Son amour est inconditionnel. Mais il nous attend. Je t'ai purifié. C'était une étape. Pourquoi ? Pour que tu viennes me rencontrer. Parce que c'était pour enlever l'obstacle qui faisait qu'on ne pouvait pas se voir. C'est un peu comme si, dans une relation amoureuse, votre amoureux, votre amoureuse vous dit « Je ne peux pas venir te voir, j'ai attrapé une maladie contagieuse. » Et puis il vous dit « Oh zut, j'espérais vraiment qu'on se voit avec le temps qu'il fait, je pensais qu'on aurait pu aller promener, on aurait été au rocher de Grange, main dans la main. » Mes mains dans tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde. Et puis l'homme très romantique dit je peux pas, j'ai une maladie contagieuse quoi. Et puis là un copain passe chez lui, il dit j'ai un remède génial. Voilà, tu prends ça 3 fois un quart d'heure, t'es plus contagieux quoi. Et puis là il est tout content, il prend ça et puis il envoie un SMS à sa copine ou fiancée ou amoureuse en lui disant super, j'ai un copain qui est passé, qui m'a donné un médicament, je suis guéri, donc je serai au match de hockey ou de foot. Vous imaginez, pour la jeune fille, elle est contente, quoi, c'est génial. Elle a tout compris, quoi. Mais on fait ça avec Dieu tout le temps. Seigneur, oh, c'est tellement horrible de me sentir coupable, misérable, je suis un pécheur. Dieu dit, écoute, je te condamne pas. Confesse ton péché, je te pardonne. Merci Seigneur, parce que alors, sinon, je n'aurais pas pu aller au cinéma tranquille, voir ce film en me sentant coupable, j'y serais pas arrivé, quoi. Et évidemment que Dieu a rien contre aller au foot, au hockey, mais c'est juste une image pour nous montrer qu'on n'a pas compris que, en fait, ce qui nous remplit, ce qui fait qu'on va plus être dans cette insatisfaction qui nous ronge et qui fait qu'on a toujours faim et que dès qu'on a fini de consommer, entre guillemets, quelque chose, quoi que ce soit, on en veut encore plus, mais il en faut plus pour avoir le même sentiment et ça ne marche toujours pas. La seule chose qui peut satisfaire l'âme, c'est la communion avec notre Créateur. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Et pour ça, il y avait un obstacle, c'était le fait qu'il est saint et nous, non. On n'était pas de la même condition. C'était impossible, cette histoire d'amour entre nous. C'était un esclave qui tombe amoureux d'une fille de roi. Pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Après toutes les images qu'il avait données dans l'Ancien Testament, Christ enfin vient et il est notre pureté. Et ce qui, dans l'Ancien Testament, était un ordre, il faut que vous soyez saints, parce que je suis saint, devient dans le Nouveau Testament une affirmation. Vous serez saint parce que je suis saint. Vous voyez ce qui s'est passé entre les deux, hein ? Vous devez être saint parce que je suis saint, sinon vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Mais quand Christ vient, c'est vous pouvez être saint parce que je suis saint. Et lorsque je vous touche, vous le devenez aussi. Mais notre part à nous, il y en a plusieurs choses, mais vous savez, on a vu ça au cours jeudi aussi, hein, une chose qui revenait dans tous les sacrifices, hein, c'est que celui qui amenait l'animal qui allait mourir à sa place, devait toujours poser sa main sur sa tête. En faisant ça, il témoignait publiquement devant les autres, le prêtre, tout ce qui était là, et devant Dieu, « Je suis coupable, c'est moi qui devrais mourir, j'ai péché, je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait, j'ai fait le mal. Hein. » Il reconnaissait, il posait sa main sur l'animal par ce geste-là. Cette chose-là, elle existe toujours pour nous aujourd'hui. Hein. C'est ce verset très connu, mais faire attention que ça ne devienne pas juste une référence qu'on cite. 1 Jean 1,9. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonner et purifier toute iniquité. Si nous confessons, et c'est exactement ça. Je pose ma main et je dis, c'est moi qui suis coupable. Confesser son péché, c'est pas aller à Dieu et dire, ah, je me sens pas bien, j'ai mal agi, tu sais, comme tous les hommes agissent mal, j'y peux rien, oui, j'ai convoité, mais qui ne convoite pas? J'ai un peu menti, mais qui ne ment pas de nos jours? Alors Seigneur, j'aimerais que tu comprennes. Ça, c'est pas confesser notre péché. Ça, c'est aller présenter nos excuses à Dieu pour lui dire que finalement, on n'est pas si pourri que ça, en tout cas, pas plus que le reste des autres humains. Dieu n'est pas intéressé par ça, c'est un Dieu saint. Mais Christ est mort, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez ce qu'a vécu David après qu'il ait tué son copain pour piquer sa femme. Il a vécu des choses horribles. Mes os se consumaient au-dedans de moi. Et le problème, c'était quoi? Il ne voulait pas reconnaître qu'il avait péché. Il ne voulait pas. Il savait, il n'était pas idiot, hein, c'était un homme intelligent, David. Il ne voulait pas. Il faut que le temps passe déjà. Il faut que le gamin meure. Il faut qu'un prophète vienne, qu'il mette au point une pièce de théâtre avec une actrice, pour qu'il se mette en colère et qu'il réalise. Et il y a un moment où finalement, il accepte devant tout le monde de poser sa main sur la tête de l'agneau. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Plus d'excuses, plus de justifications, plus de « Oui, mais je suis le roi a besoin, de toute façon, on le sait, vous ne connaissez pas ce que c'est, voilà, c'est comme ça. » Non, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et là, il écrit des choses magnifiques sur celui à qui l'Éternel a enlevé l'iniquité. Enfin, il respire. C'était d'autant plus douloureux pour lui que David était quelqu'un qui avait appris depuis tout jeune à rendre un culte à l'Éternel. David n'était pas un homme religieux, mais dans la campagne, avec ses brebis, au combat, quand il était poursuivi par Saül, Dieu faisait partie de sa vie, comme nous le disait David au début. Ce n'était pas le truc exceptionnel. Il avait appris à vivre avec Dieu dans tout. Donc il comptait sur Dieu pour se battre à l'épée, pour écrire des cantiques, pour soigner ses brebis, pour chasser le loup, pour tout. Et dans cette période où il ne voulait pas confesser son péché, il a dû vivre sans son Dieu. C'était une souffrance. Et puis il a été pardonné. Les conséquences restent, hein, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, c'est comme ça. Il a dû y faire face, mais il a été pardonné. Ah. Et nous devons, nous aussi, apprendre à faire ça. Christ, à son contact, on devient pur. Donc il ne faut pas se... Et c'est terrible, je rencontre régulièrement, souvent, et ça m'arrive aussi, hein, mais des chrétiens, donc des vrais chrétiens, et de nouveau, tout ce que vous voulez et tout, mais le but de leur vie, c'est devenir pur pour s'approcher de Dieu. Et Dieu dit, ça, c'était avant. Il fallait être purifié pour s'approcher de moi. Maintenant, approchez-vous de moi et vous deviendrez pur. C'est le contraire. Ça marche dans l'autre sens. Et non, mais quand j'arriverai à lire ma Bible tous les jours, là, Dieu sera content. Quand j'arriverai à prier 1 heure par jour, Dieu sera content. Quand je raterai plus un culte, quand j'aurai fait ci. Et... C'est pour ça que lorsque Jésus est venu sur terre, il a rajouté au livre des Lévitiques un étage de plus. Parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient, en tout cas, qui arrivaient à se persuader qu'ils y arrivaient. Entre 2 visites au temple, ils pensaient rester purs. C'était possible, je pense, si on était comme étaient ces gens-là, à plein temps pour ça, entre guillemets. Hein. Ils étaient à plein temps dans le ministère. C'était génial, hein. ils n'avaient rien d'autre à faire que s'occuper d'eux pour être sûrs de rester purs. Ça, c'est une activité qui porte des fruits, qui est utile, qui réjouit Dieu, quoi. Et Jésus vient et leur dit tout ce travail sert à rien parce que vous avez réussi en ne faisant rien d'autre à plus toucher la mouche, à pas croiser de femme, à pas croiser de cochon, à pas manger de ci, à pas manger de ça. Et moi, je vous dis, hein, vous connaissez tous les, vous avez entendu qu'il a été dit, allusion au Lévitique, mais moi, je vous dis, hein, vous pensez que vous n'êtes pas des meurtriers parce que vous avez réussi à jamais tuer quelqu'un? Mais chaque fois que vous avez pensé, ce gars-là, c'est un imbécile, vous êtes des meurtriers. Ah! Vous pensez que vous êtes pur parce que vous n'avez jamais trompé votre femme? Chaque fois que vous avez vu une fille, que vous avez eu une mauvaise pensée, vous avez commis un adultère. Et puis ça continue comme ça. Et là, leur monde, vous comprenez pourquoi ils l'ont crucifié? Ils venaient détruire le but de leur vie, le but que Dieu leur avait assigné, dans leur compréhension fausse, hein. Le but, c'est de rester pur. Nous, on y arrive en faisant que ça. Ça veut dire que les autres travaillent pour nous nourrir et tout, parce qu'on a, nous, on peut pas, on a que ça à faire. Et Jésus vient et juste d'un petit revers de main comme ça, il leur dit, les gars, vous êtes aussi pourris que tous les autres. Pareil, juste un peu plus hypocrite. Ils l'ont tué. Mais ça pouvait pas se terminer autrement, cette histoire-là, quoi. Mais il y avait cette femme qui dit, si je peux toucher son vêtement, je serai pur, je serai guéri. Et c'est ce que on doit réaliser aujourd'hui. L'agneau de Dieu est mort pour nous. Et maintenant, oh, oui, je suis coupable. C'est moi, j'ai péché. Mais je m'approche de toi, pécheur, et je ressors purifié. La loi n'avait pas la force de changer les pécheurs. Paul le développe dans l'Épître aux Romains, je ne vais pas le reprendre. Mais Christ peut nous changer. Et la dernière chose avec laquelle je termine, qui m'a frappé en lisant le livre du Lévitique, c'est l'importance du temps que Dieu donne à s'arrêter. Un jour sur sept, on s'arrête. Et on ne s'arrête pas de travailler pour faire une autre sorte de travail comme nous, nous faisons aujourd'hui. On a le week-end, on fait plus le week-end que dans la semaine. Ça compte pas, ça. Hein? Dieu n'était pas intéressé qu'on remplace un travail par un autre. Vous allez vous arrêter un jour sur sept. Alors, c'était pas deux, c'était pas samedi et dimanche, c'était un jour. Hein? Mais un jour sur sept, vous cuisinez pas, vous labourez pas, vous trayez pas les vaches, vous allez pas... Alors, bien sûr que c'était... Quand ça devenait une loi, c'était stupide. Et Jésus lui-même a marché le jour du sabbat. Ce n'était pas ça le but. C'était un septième de votre temps. Ne faites rien d'autre que rencontrer Dieu. Vous pouvez rencontrer Dieu en mangeant, en jouant au foot, en allant promener, etc. Mais un septième, essayez de calculer ce que ça fait. Parce que c'était un jour sur sept. Une année sur sept. Ça, je dis, ça aurait plu aux Français, cette histoire-là. Hein. Une année sur sept, on ne travaille pas. Et Dieu pourvoyait la sixième année pour que pendant 2 ans, il y ait assez dans les récoltes et tout ce qu'il fallait. Une année entière de congés payés tous les six ans. C'est extraordinaire, ce truc-là. Mais le but, c'était quoi? C'était que on prenne le temps de rencontrer Dieu. Et puis après, il y avait le jubilé, hein, tous les 7 fois. Il y a une leçon pour nous. Oui, c'est gratuit. La grâce, c'est gratuit. Mais il y a un prix à payer. Alors, le prix de la grâce, c'est Christ qui l'a payé. C'est lui qui est mort. Mais le prix de notre part à nous, c'est de dire, je dois prendre le temps, pas pour faire des choses pour Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Comment vous rendez un culte à Dieu? Ça vous regarde, j'en sais rien, je sais pas. On pourrait en partager, ça serait super intéressant. Ça peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. Mais ça veut dire en tout cas que mon esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Par la pensée, par beaucoup de choses, par la louange, par la méditation, par la prière, par la réflexion, par le partage, par le silence, par tout ce que vous voulez. Hein. Et que idéalement, on ne vit pas dans un monde idéal, je devrais y consacrer un septième de mon temps. Pour ceux qui savent faire des maths, enlevez même 8 heures de sommeil, je suis généreux. Prenez les heures qui restent, comptez un septième ce que ça fait du temps. Le problème, c'est que si on le transforme de nouveau en loi il faut lire sa Bible 2 heures par jour, ou prier 2 heures par jour, aller à l'église 2 heures par jour. On est redevenu comme les pharisiens. Mais ça n'empêche pas, ce côté-là, qu'on doit, d'une façon ou d'une autre, nous, dégager du temps pour rencontrer Dieu. Et on a tous 24 heures dans une journée. Je parle pour moi, hein. Ça ne vaut pas comme excuse, j'ai pas le temps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai le temps pour ce que je veux. Et je le sais. J'ai le temps pour rien, mais je lis 3 livres par semaine. D'où je le prends, ce temps? Je le prends bien quelque part. Hein. J'ai le temps pour rien, mais je mange tous les jours. J'ai le temps pour rien, mais je regarde la télé 1 heure par jour. J'ai le temps. Et il n'y a pas de. C'est pas des lois, c'est pas de la culpabilité, mais on doit comprendre que ce qu'on recherche dans toutes ces activités qui nous épuisent, on ne le trouvera pas là, on le trouve auprès de Dieu, et quand on sera satisfait par Dieu, on pourra faire les autres activités en étant bien pour les faire. C'est ça les choses. C'est pas le but, c'est pas qu'on devienne tous des moines qui se retirent dans une grotte pour méditer du matin au soir. C'est qu'on fasse ce qu'on a à faire, mais qu'on le fasse pas pour satisfaire nos vies, parce que ça ne va pas les satisfaire. C'est terrible. Si le but de ma vie, c'est être satisfait par mon travail, c'est horrible, même si j'aime mon travail. Parce qu'un jour, je ne vais plus travailler. Je vais devenir quoi ce jour-là? Misérable. Et puis même, jour après jour, alors il m'en faut plus, parce que le travail, c'est comme le sport, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, c'est comme tout. Hein. Il m'en faut 8 heures, il m'en faut 10 heures, il m'en faut 15 heures, il m'en faut... Non. Ce qui nous satisfait, c'est rendre un culte à Dieu. Mettons-le d'abord, et on fera le reste comme il faut, raisonnablement, intelligemment, avec qualité, avec clarté, avec intelligence, selon nos dons, nos personnalités, etc. Mais rappelons-nous, Christ, c'est la pureté contagieuse. Et chaque fois que je m'aperçois, ah, j'ai encore marché sur une mouche morte, j'ai encore croisé un cochon, j'ai encore mangé ce qu'il ne fallait pas, j'ai encore pensé ce qu'il ne fallait pas, je cours. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai purifié. Et il y a quelque chose qui sort de Christ et qui vient en moi. Ah, pardonné, purifié. Et là, au lieu de repartir à mes activités, je m'arrête et je dis, Seigneur, en fait, c'est vrai que je suis bien avec toi. Est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble, 5 minutes, là? J'éteins mon téléphone, j'envoie un message à mon patron. Occupé 5 minutes. Et puis je vais marcher 5 minutes avec lui. Et c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... Non, il nous aime, mais c'est ce qui va remplir nos vies. Seigneur, on te remercie parce que tu es venu pour nous donner la vie, tu es venu nous purifier, tu es venu nous partager ta sainteté. Nous sommes saints parce que tu es saint. C'est extraordinaire. Merci pour ce prix merveilleux que tu as payé, ce prix énorme pour toi et qu'on n'aurait de toute façon jamais pu payer. Merci parce que nous pouvons vivre une vie de pureté malgré tous nos échecs, en revenant à toi à chaque fois, Seigneur. Et tu nous accueilles toujours, sans commentaire, sans pression, sans reproche. Tu nous accueilles encore et encore, même 7 fois, 70 fois dans un jour. Aide-nous à vivre comme ça, Seigneur. Nous n'en sommes pas capables, mais que nous puissions tendre vers ça, désirer vivre comme ça, et que nous puissions nous encourager les uns les autres à vivre de cette façon aussi, Seigneur Dieu.